Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Témoignages, faits de société, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré.
Intime Conviction, c'est une série du Dauphiné libéré en podcast et en vidéo sur la justice. Pour ce premier épisode, le Dauphiné libéré va à la rencontre de Maître Ronald Gallo, l'un des ténors du barreau grenoblois. Pénaliste, souvent dans le camp de la défense, qui se cache derrière cet avocat de renom? Intime Conviction, premier acte.
Bonjour Ronald Gallo.
Bonjour.
Vous êtes avocat depuis 32 ans. Vous avez accepté de répondre aux questions du Dauphiné libéré pour la première de cette série sur le monde judiciaire. On voulait en savoir un peu plus sur vous et essayer de comprendre un peu qui vous êtes. Et pourquoi vous êtes celui que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a amené à la profession d'avocat? Est-ce que c'est une très vieille idée d'enfant ou pas?
C'est une très vieille idée de ma mère. C'est elle qui, sans exiger quoi que ce soit, avait ce projet pour moi. Et sans ce projet maternel, je ne serais pas avocat. Alors elle avait ce projet parce qu'elle pensait que l'avocat avait la capacité d'interdire les injustices. C'est pas le cas, mais c'est ça le projet. Donc c'est pour ça que je suis habité par cette profession, d'une part parce que j'ai l'impression de satisfaire à un désir maternel, et d'autre part parce que, aussi, mes parents ont subi l'injustice. Donc cette indignation que je peux éprouver dans des situations qui ne me concernent pas, mais qui concernent ce qu'on appelle de manière commerciale des clients, cette indignation, je l'ai éprouvée très petit.
Vous l'avez éprouvée petit parce que votre maman est devenue commerçante et qu'elle a rencontré des soucis financiers à une époque de sa vie?
Oui.
C'est ça qui a suscité ce sentiment d'injustice?
C'est assez terrible. C'est-à-dire que lorsqu'on est gamin, qu'on a 6-7 ans et qu'on rentre chez soi et qu'on constate que ses parents ont subi un braquage légal, c'est inintelligible. Un braquage légal, ça veut dire une saisie. Et à l'époque, ils ne faisaient pas avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire qu'on rentre, il n'y a plus rien. On a mangé sur une boîte en carton, on n'avait vraiment plus rien. Donc les parents, face à cette situation, ils sont incapables d'expliquer.
Et du coup, l'idée de votre mère de vous voir un jour devenir avocat, c'est devenu la vôtre?
Bon, c'est ça. J'ai fait mien ce qu'elle aurait aimé être pour éviter cette grave injustice. Bon, voilà pourquoi. C'est incarné. Cette idée de devenir avocat, c'est vraiment incarné. C'est pas une revanche, hein, parce que ça fait bien longtemps l'histoire du braquage légal. On peut pas dire que je tienne en haute estime le travail de l'huissier, hein, qui aujourd'hui ne s'appelle même plus huissier, hein, il y a un peu de honte dans l'expression elle-même. Mais non, c'est pas une revanche, c'est devenu un combat politique, d'une certaine manière. Dire aux magistrats d'éviter la catastrophe pour les gens qu'ils jugent, je pense, c'est éviter la folie du pouvoir. Et nous sommes des contre-pouvoirs. C'est ça qui rend indispensable le rôle de l'avocat. Donc, c'est pas une revanche.
Vous êtes aujourd'hui principalement en défense.
Oui.
Il vous arrive d'être en partie civile, mais on vous voit plutôt en défense. Là aussi, on aurait pu se dire, Maître Gallo, son parcours aurait pu l'amener à défendre la veuve et l'orphelin face au crime. Vous avez choisi la défense. Certains vous affublent du sobriquet d'avocat des voyous, parce que vous défendez des gens qui ont commis des délits, dans des crimes ou des délits, des trafiquants de stupéfiants, des choses comme ça. Pourquoi, aujourd'hui, on vous retrouve plus en défense qu'en partie civile.
Ben, c'est... Il n'y a pas d'enjeu. Enfin, souvent, quand on est du côté partie civile, on est en surnuméraire. C'est-à-dire que le rôle de défense de la partie civile, c'est le parquet qui l'assume. C'est le procureur, c'est l'avocat général. Donc venir rajouter une couche contre la personne qui est déjà accablée, pour le dire simplement, je trouve que ce n'est pas juste. Un, c'est pas juste. Deux, il n'y a pas d'enjeu, parce que le travail est fait par le ministère public. Et je trouve que notre rôle d'avocat, il est du côté de la défense. Et puis, comme je le dis, je le répète, c'est les gens qui choisissent pour vous. Hein. Il y a plus de personnes qui demandent à être défendues, même si j'en ai quelques-uns côté partie civile. Je ne dis pas que c'est facile hein, d'assister des parties civiles. Je dis que le travail sera fait de toute façon, même si vous ne le faites pas vous en tant qu'avocat, il sera fait.
Tout le monde, même le pire des criminels, a le droit à une défense.
Oui, d'abord, je ne sais pas ce que c'est que le pire des criminels, parce que quand on rencontre les gens qu'on accepte de défendre, on ne les voit pas du côté pire. Et c'est ça notre rôle. C'est de faire apparaître aux yeux de ceux qui jugent l'homme derrière le crime qu'il a commis. Et lorsqu'on le rencontre en maison d'arrêt, notamment, pas seulement, on se rend compte assez vite qu'il y a un décalage, c'est très rare, qu'il y a une coïncidence entre l'homme et l'infraction. Très très rare. Même lorsqu'il m'est arrivé de défendre un homme qui avait étouffé ses deux enfants, il n'y a pas de coïncidence entre les deux. Ça, c'est les gens qui aimeraient qu'il y ait la figure du monstre.
Qui aiment voir le monstre.
Qui aiment voir le monstre. Et c'est ça qu'ils cherchent. Et c'est pour ça que ça marche autant, les séries, les documentaires sur le fait divers, parce que ce qui attire le peuple, entre guillemets, le téléspectateur, le spectateur, c'est la figure du monstre. Elle n'existe pas. Ils doivent être suffisamment déçus, trop souvent déçus, de ne pas voir cette coïncidence entre les deux. Et nous, c'est ça qu'on dit, qu'on essaye de montrer que l'homme est plus riche que les faits qui lui sont reprochés.
Il y a sans aucun doute des affaires qui vous ont beaucoup marqué. Quelles sont-elles ?
Il y a une affaire qui me tient à cœur depuis des années. Et étonnamment, je suis partie civile. Cette affaire qui va m'habiter, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière, et au-delà même, c'est cet homme qui a été abattu dans son jardin alors qu'il préparait un barbecue. Je n'arrive pas à passer au-delà de ce dossier, je suis vraiment habité. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite histoire, c'est que cet homme qui est dans son jardin, il lui arrive de regarder la télévision comme tout le monde, et un jour, sa femme, son épouse, qui va venir me trouver afin que je l'assiste dans cette procédure, cette femme va me dire que je viens vous voir, Maître Gallo, parce que mon mari, un jour, il est devant la télé, alors qu'il n'a pas de problème, il me dit, si un jour j'ai un problème, c'est cet avocat-là qu'il faudra aller chercher. Cet homme va mourir, cette femme va se souvenir de cette désignation, et va bien me trouver. Donc, ce dossier de cet homme abattu par 5 policiers, on se bat tout seul, hein, dans ce dossier. C'est des gens qui n'ont pas de ressources et qu'il faut néanmoins défendre, hein, parce que c'est ça aussi notre travail. Il y a des dossiers qui sont plus importants que les bénéfices, les espèces sonores et trébuchantes peuvent nous apporter.
Lorsque vous êtes du côté de la défense, est-ce que vous avez une ou deux affaires à nous évoquer qui vous ont marqué, que vous gardez à l'esprit et que vous garderez à l'esprit ?
Par exemple, le premier acquittement que j'ai eu, nécessairement, que j'ai à l'esprit, cet homme qui est accusé d'avoir violé sa nièce. Sa nièce qui a une sclérose en plaques. Cet homme est chef d'entreprise et je ne suis pas dans le champ pénal quelqu'un de connu et il va faire confiance à quelqu'un qui n'a pas la carrure qui est supposée, qu'il est supposé avoir pour le défendre. Et c'est cette confiance-là qu'il a accepté de me donner qui fait que je m'en souviens et je m'en souviendrai tout le temps. D'autant plus que cet homme donc, que je vais défendre, c'est vrai à l'époque, à la cour d'assises, dans l'ancien palais de justice, place Saint-André, cette très belle place, les dossiers ne duraient pas des jours et des jours. Ça durait une journée, ça se terminait à minuit. Et je me souviens de ce dossier parce qu'il y a le parquet qui requiert bien sûr la condamnation. Je plaide mon premier acquittement et je m'en vais et je vais attendre dehors. Vous savez, il y avait un bar où les avocats avaient l'habitude de se réunir dans l'attente du délibéré. On voyait un peu la tête des jurés dans la salle de délibéré. Et je vais rater le moment du délibéré. Et j'ai vu sortir mon client m'embrassant et me disant qu'il avait été acquitté. Ça, alors là, acquitter un homme, c'est comme sauver un homme. Faire acquitter un homme alors qu'il est innocent, ou qu'on le pense innocent, c'est de même nature, je crois, que ce que le chirurgien peut éprouver. Sauver un homme, c'est l'acquitter.
Vous êtes un avocat médiatique. Comment vous gérez ça quand vous êtes confronté à un groupe de journalistes ou à la médiatisation d'une affaire dans laquelle vous êtes ?
Oui, je pense que certains hésitent beaucoup à intervenir et à parler aux journalistes, alors que j'estime que le journaliste fait partie intégrante du travail que nous exerçons, parce que la justice est supposée être rendue au nom du peuple français, et s'il n'y a pas le journaliste pour rendre compte de ce qui se passe dans l'enceinte judiciaire, on le voit actuellement, puisqu'il a été décidé de filmer maintenant les procès. Donc moi, je pense que le journaliste est un témoin, et que sans le journaliste, il peut y avoir des vices, il peut y avoir des abus, il y en a déjà suffisamment pour que le journaliste soit là et les éviter. Même s'il dénonce pas tout ce qu'on souhaiterait qu'il dénonce, le seul fait qu'il soit là, c'est un peu comme l'avocat en garde à vue. On dit qu'il sert à rien, le journaliste est là, il relate, on pourrait dire ça sert à rien, or c'est faux. Sa seule présence est une sentinelle. C'est une sentinelle. Comme nous sommes la sentinelle, comme nous sommes les porteurs de la vérité, moi je pense que comme Michel Foucault le disait, qui a fait un travail sur la vérité, c'est un cours en fait qui a été publié par la suite, sur ce qu'il appelle la parésia. La parésia, c'est la vérité, et le parésiaste, c'est celui qui a le courage de dire la vérité. Et lorsqu'on est dans une enceinte judiciaire, et que tout accable la personne qui est dans notre dos, qu'on ne voit même pas, tout l'accable, et que nous, on se lève, et qu'on a le courage de se lever. Parce que, pour se lever et dire « Non, monsieur le Président, vous avez tort. Non, monsieur l'avocat général, vous avez tort. » Vous qui êtes journaliste, vous savez qu'il faut du courage. Parce que la plupart des personnes, soit se taisent, soit gardent le silence, soit le disent sur un ton qui n'est même pas audible, et on pense même que lorsqu'ils prétendent, lorsqu'ils soutiennent, lorsqu'ils défendent, en réalité, ils ne défendent rien du tout, ils se taisent, ils accompagnent la décision.
La défense de rupture, ou la défense qui est la vôtre, qui n'est pas tout à fait la rupture, qui est un peu entre les deux, est-ce que c'est un principe pour vous ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'absolument nécessaire d'être toujours sur le fil du rasoir ?
Dites que je suis sur le fil du rasoir, moi j'estime que je suis dans l'exercice normal du pénaliste. C'est-à-dire que lorsqu'un président de cour d'assises a l'obligation légale de faire une analyse à charge et à décharge, et qu'il dit, ne serait-ce qu'au tout début d'un procès, que les éléments à charge, est-ce que c'est de la rupture de dire, monsieur le président, vous avez oublié les éléments à décharge ? C'est pas de la rupture, c'est juste rappeler au président sa charge à lui. Et moi, j'estime que je ne suis pas sur le fil du rasoir. Mais c'est intéressant que vous pensiez que je le suis, parce que la plupart des autres ne feront pas ça.
Hier ou avant-hier, François Molins, qui est le procureur général près la Cour de cassation, qui va bientôt quitter son poste, a dénoncé ce qu'il a appelé la fédivérisation de la justice. Il dénonce en fait le fait pour le législateur d'être amené à produire des lois après des faits divers marquants. Et des lois qui sont du coup produites, dit-il, dans l'émotion après les faits divers. Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion ?
Ah, je souscris complètement à la réflexion de ce magistrat. Il est d'autant plus libre de le faire qu'il sait qu'il va quitter le poste. Mais on l'aurait entendu déjà, parce que sous Sarkozy, c'était une caricature. Chaque fois qu'il y avait un fait divers, vous aviez une proposition de loi. Là, on semble prendre le même chemin. Or, prendre des dispositions légales, prendre des lois qui ont pour, par nature, la nécessité d'être appliquées pendant des années, sous le coup d'une émotion, nécessairement, c'est dangereux. C'est dangereux parce que actuellement, le danger, c'est l'extrême droite. Moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Si demain, nous avons au pouvoir en France des gens qui sont partisans de l'exclusion au sens large du terme, l'exclusion des étrangers, mais l'exclusion des délinquants. Or, comme effectivement, il peut y avoir une coïncidence entre délinquance et étrangers, parce qu'il y a une coïncidence entre pauvreté et délinquance. Si demain, nous avons ce type d'individu au pouvoir, nous sommes exposés à tous les dangers. Et là, vous verrez l'importance que l'avocat qui assume sa tâche, pourra avoir un rôle très important, comme il en avait un en Algérie.
Les deux plus grands reproches que l'opinion publique fait à la justice aujourd'hui, c'est son laxisme, et puis on entend dire que les juges manqueraient d'indépendance. Comment vous les jugez, les juges, vous, aujourd'hui ?
Alors, le laxisme qui est reproché aux juges, il est reproché parce que les gens méconnaissent en fait la justice. Ils en ont que les bruits tels qu'ils leur sont rapportés, parce qu'eux-mêmes n'écoutent pas en réalité. Eux, ils s'en moquent, ils se focalisent sur un dossier. Prenez l'exemple du rugbyman qui est condamné à un an de prison. Le parquet réclame 18 mois, il est condamné à un an aménageable. Est-ce du laxisme ? Alors que ce gars va être détruit par cette décision. Les gens retiennent les 12 mois et l'aménagement, mais ils ne voient pas les conséquences de cette décision. Alors bien entendu, aujourd'hui, c'est très difficile de venir parler lorsqu'il s'agit de violences conjugales. Et c'est le cas pour ce rugbyman. Les gens s'imaginent qu'il n'a plus de carrière sportive, que les juges sont allés même au-delà, sans doute, de ce que la victime aurait souhaité. Les gens ne rentrent pas dans le détail des conséquences d'une décision judiciaire. Les juges ne sont pas laxistes. Alors bien sûr, si on revient au risque que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un régime totalitaire, dans ce cas-là, lorsque un individu risque une peine de 30 ans, il faudra prononcer une peine de 30 ans, il n'y aura plus de marge. Là, c'est ça le danger auquel nous sommes exposés, c'est la volonté d'être de plus en plus dur, indépendamment de la personne. Et là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de coïncidence entre l'homme et l'infraction, et ce qu'on souhaiterait, c'est mélanger les deux. Un homme serait réduit à ce qu'il a fait. Or, ce qu'il a fait, ça a duré quoi ? Une minute, deux minutes, un quart d'heure ? C'est pas toute une vie. Donc, les juges, et là, je me fais le défenseur des juges, j'estime qu'ils ne sont pas laxistes, j'estime pour ma part qu'ils sont trop souvent sévères et injustes, parce que eux n'ont pas la relation que nous avons avec l'individu qu'on défend. Ils voient un dossier, ils voient un homme, mais ils ont trop de travail. Moi, je les plains. Un magistrat qui assume cette tâche de 13h30 jusqu'à 20h, 22h, minuit quelquefois, c'est inhumain. Donc on demande à des juges une concentration, une attention impossible à donner tout le temps. Je pense que l'idée d'augmenter le nombre de juges est une nécessité impérieuse. Les gens s'en rendent compte lorsqu'ils ont mis le doigt dans la machine judiciaire. Sinon, ils vous disent de loin « Ah, les juges sont laxistes ».
La prison, pour vous, c'est un passage qu'on ne peut pas éviter dans certains cas. C'est quelque chose qui pourrait être amélioré, quelque chose qui pourrait être supprimé de la société. Comment vous voyez la prison aujourd'hui, vous qui vous y rendez régulièrement pour rencontrer des clients? Quel est votre regard sur la prison telle que les gens la vivent en France aujourd'hui?
Alors cette question est très importante et c'est une des raisons pour lesquelles je me bats et je suis indigné contre des décisions excessives, démesurées, disproportionnées, parce que la prison n'arrange pas, elle abîme. Et il faut faire la différence entre deux situations, la détention dite provisoire et la condamnation définitive. La détention provisoire, c'est un gros scandale en France. C'est le règne de l'arbitraire. Vous voyez, si vous me demandez, est-ce qu'on peut mettre en prison quelqu'un sans raison, si je suis excessif, je vous réponds oui. Parce qu'il y a des critères légaux dont le juge peut faire ce qu'il veut. Le législateur a beau progressivement mettre des barrières, dire par exemple, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle. Ce mot n'a plus aucun sens devant un juge. Les avocats ont même honte de le dire, de rappeler au juge, n'oubliez pas, c'est une mesure exceptionnelle. Ils n'en tiennent pas compte. La prison, mais il y a juste à se mettre soi-même dans 9 mètres carrés, avec une porte qui va s'ouvrir que 2 heures par jour, pour faire une promenade. Et encore, là aussi, on n'est pas tous égaux devant la prison. Parce que dépendant de Corbat ou Chambéry, une cour de 20, 30, 50 mètres carrés, où les gens tournent en rond, où ils sont deux ou trois dans une cellule où on ne voit pas le ciel parce que la fenêtre elle est tout en haut de la cellule, les toilettes où on est obligé de se cacher par rapport à celui qui vous accompagne, le co-détenu. La prison, une torture mentale. Il faut que les juges sachent. On devrait mettre dans chaque salle d'audience des photos de ces cellules et on comprendrait qu'il faut éviter d'abuser de cette mesure, une mesure dont on sait, dont tout le monde sait, qu'elle ne sert quasiment à rien, sauf de manière exceptionnelle avec des individus qui sont eux-mêmes exceptionnels.
Mais intérieurement, qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui, après 32 ans de barreau, un avocat encore aussi décidé et motivé?
Il y a des moments où je suis motivé et vous me posez des questions sur ce qui a fait que j'étais ce que je suis. Mais il y a des longs moments de désarroi, des moments de démoralisation.
De doute.
De doute. C'est chaque fois, de toute façon, qu'on va devant ces juges, devant les juges, on s'interroge sur ce qu'on fait.
Vous n'êtes plus un jeune avocat? Vous n'êtes pas non plus en fin de carrière. Vous imaginez un jour ne plus faire ce métier?
C'est compliqué parce que je me pose la question nécessairement, hein, puisque comme vous le dites, je ne suis plus un jeune avocat. Et je me demande par quoi je le remplacerai. Vous voyez? Donc je sais que des grands pénalistes perdurer même jusqu'à 86 ans, pour ne parler que d'Henri Leclerc, et d'autres qui meurent au travail, à la tâche. Moi, j'ai beaucoup d'occupations, de préoccupations à l'extérieur de mon travail. Mais aucune autre activité aussi passionnante que celle-ci, parce que l'abandonner, c'est abandonner les personnes qui ont besoin de nous. Et donc, les abandonner, j'ai beaucoup de mal. Et ce que je réponds aux personnes qui me demandent « Et alors, Ronald, c'est quand tu passes la main ?» Et je réponds « Quand les clients ne me demanderont plus de les défendre. »
Merci beaucoup, Ronald Gallo.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.